Pourquoi Dieu peut-il être heureux alors qu'il connaît toutes nos souffrances? Lorsque Dieu regarde le monde et qu'il voit toutes les épreuves que subissent ses enfants et les atrocités qu'ils commettent, comment peut-il rester heureux? C'est pourtant ce que chantent tous les saints. Thérèse de l'Enfant Jésus commence son acte d'offrande à l'amour miséricordieux par ces mots: « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse !» Une telle conviction n'est-elle pas scandaleuse? N'est-elle pas dans le christianisme une survivance de la mythologie grecque? Imaginons Jupiter trônant dans son ciel, splendidement indifférent à ce qui se passe sur la terre. Il est évident que la Bible nous présente une toute autre idée de Dieu. Il s'intéresse de près à l'esclavage que subit son peuple en Égypte. Il demande à Moïse d'aller rencontrer le Pharaon pour qu'il le libère. Et devant son refus, il frappe lui-même un grand coup pour que son peuple quitte l'Égypte et finisse par entrer dans la terre promise. Oui, le Dieu de la Bible est un Dieu infiniment compatissant. Il a des entrailles pleines de miséricorde. Mais sa compassion ne l'empêche pas d'être heureux. Sur terre, lorsque nous compatissons à la souffrance de quelqu'un, nous souffrons terriblement. Pensons à la douleur de la Vierge Marie au pied de la croix. Communions aux terribles souffrances que son Jésus endurait dans tous les membres de son corps crucifié. Mais dans le ciel, la compassion de Dieu, des anges et des saints ne les empêche pas de rester bienheureux. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit. Parce qu'ils voient dans une totale clarté ce que nous nous efforçons de croire sur terre, à savoir que Dieu réussit à faire sortir un bien de tous les maux dont souffrent ses enfants. Tel est le merveilleux mystère de la Providence que nous avons contemplé il y a peu et qui permet aux habitants du ciel de ne pas être accablés par les malheurs qui nous arrivent. Ils sont en colère contre toutes les horreurs dont nous souffrons, mais ils contemplent émerveillés l'alchimie céleste qui les transfigure. Jésus a connu sur terre quelque chose de cette joie du ciel, parce que tout au fond de sa conscience, là où il se savait le Fils de Dieu, il jouissait déjà de cette vision que Dieu possède du déroulement de l'histoire. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que sur terre, Jésus a été à la fois l'être le plus heureux et le plus douloureux qui ait jamais existé. Si un jour vous allez en Terre Sainte, vous pourrez penser, ici a vécu un homme qui a beaucoup souffert dès le début de son existence, écœuré qu'il était par le péché des hommes, mais par ailleurs, il a été l'homme le plus heureux qui ait jamais marché sur la planète. L'homme qui a pleinement vécu les béatitudes proclamées dès les débuts de son ministère en Galilée. C'est ce que disait un jour Jésus au petit Vannes. Ma vie doit être appelée une vie douloureuse, mais pas une vie malheureuse. Si je m'étais alors attristé en face de la souffrance, petit Vannes, comment pourrais-je maintenant t'exhorter à être toi-même joyeux quand tu rencontres la souffrance? C'est pourquoi Jésus demande à Vannes de rester joyeux pendant la Semaine Sainte, afin de participer à la joie que, durant sa passion, il a connue lui-même de se sacrifier pour les âmes. Sainte Catherine de Sienne ne pense pas autrement. C'est avec une joie immense, dit-elle au cardinal Orsini, que Jésus crie ces paroles, tout est achevé. On pourrait croire que c'était des paroles de tristesse, mais c'était bien des paroles de joie. Il semble que ce doux Jésus veuille dire « Maintenant j'exulte, cette épreuve, je l'ai enfin consommée. » Oui, dit-elle encore, l'agneau sur la croix était tout à la fois bienheureux et souffrant. Sa chair souffrait, mais sa divinité ne pouvait souffrir, ni non plus son âme en sa partie supérieure, la plus spirituelle. Et maintenant que Jésus est entré pour toujours dans la gloire de son Père, il est encore plus que sur terre, il connaît plus que sur terre cette coexistence mystérieuse de la joie et de la souffrance. Avec évidemment une énorme prédominance de la joie sur la souffrance. Il ne peut plus ni souffrir ni mourir. La liturgie du temps pascal chante cette joie du Christ ressuscité, joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Charles de Foucault redisait souvent que l'une des grandes causes de sa joie, c'était sa conviction que Jésus était désormais heureux pour toujours. Quand nous sommes tristes, découragés de nous-mêmes, des autres, des choses, pensons, écrit-il, que Jésus est glorieux, assis à la droite du Père, bienheureux pour jamais, et que, si nous l'aimons comme nous devons, le bonheur de l'être infini doit l'emporter infiniment dans nos âmes sur la tristesse provenant des maux d'être fini. Par conséquent, devant la vision du bonheur de notre Dieu, notre âme doit entrer dans la jubilation, et les peines qui la pressent doivent disparaître comme les nuages devant le soleil. Notre Dieu, notre tout, est bienheureux. Réjouissons-nous sans fin, car tous les maux des créatures sont un atome à côté du bonheur du Créateur. Aussi le frère Charles aimait-il entre toutes la fête de l'Ascension, du fait qu'on y célèbre l'entrée définitive du Christ dans sa gloire. Quand nous faisons une génuflexion devant un tabernacle, n'oublions pas que le Christ ressuscité y jubile et qu'il y chante jour et nuit la gloire de son Père et sa joie de voir ses enfants ressusciter avec lui. Mais, par ailleurs, le Christ continue à souffrir dans les membres de son corps mystique, puisque c'est lui qui a faim, qui a froid et qui est nu dans la personne de tous les malheureux du monde. Comme nous le rappelle la célèbre description du jugement dernier au chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu. C'est cette conviction qui a animé depuis 20 siècles les millions de chrétiens qui se sont mis au service de leurs frères avec une générosité incroyable. Si Armand Marquiset a demandé aux petits frères des pauvres de souhaiter l'anniversaire des anciens, une bouteille de champagne dans la main et un bouquet de fleurs dans l'autre, c'est bien parce qu'il était persuadé qu'on ne pouvait pas moins quand il s'agissait de souhaiter l'anniversaire de Jésus lui-même. Si notre foi était plus vive, la vue d'un SDF dormant dans la rue nous serait aussi insupportable que la vue d'un ostensoir jeté sur une décharge. Et c'est pourquoi Pascal a bien raison de dire « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Le mystère, c'est que cette agonie du Christ, dans la foule innombrable de ses frères et de ses sœurs, n'entame pas son bonheur infini. Oui, c'est bel et bien Jésus qui revit dans les membres de son corps mystique les souffrances de sa passion, tout en étant immergé depuis son ascension dans la gloire de son Père. Nous savons aussi que nous pouvons vraiment le consoler de la peine qu'il éprouve devant l'ingratitude des siens, une peine qu'il a confiée notamment à Marguerite Marie au cours des colloques qu'elle avait avec lui dans la chapelle de Paray-le-Monial. Mais c'est une peine qui ne compromet pas la joie infinie dont il jouit éternellement dans ses échanges trinitaires incessants avec le Père et l'Esprit-Saint. Et voici que nous sommes appelés à vivre dès maintenant quelque chose de cette coexistence de la souffrance et de la joie que Jésus a vécu lui-même tout au long de son existence sur terre. Le chrétien essaye de vivre, lui aussi, à sa façon, bien petitement, bien faiblement, avec beaucoup de rechutes. Il essaye de vivre ce que Jésus a vécu sur terre, une vie à la fois de douleur et de bonheur. La douleur de voir le monde se déchirer, de voir le mal se perpétrer, La douleur de voir Dieu n'être pas aimé, mais en même temps une authentique sérénité. D'ailleurs, Jésus en a prévenu ses disciples le soir de la scène. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Oui, c'est en Jésus, dans ses bras et sur son cœur, que nous pouvons vivre ce paradoxe de la vie chrétienne. En vivant dans le Christ, comme saint Paul ne cesse de nous le redire dans ses lettres. C'est ce que font les saints lorsqu'ils sont terriblement angoissés et scandalisés par tout le mal dont souffrent leurs frères et dont ils souffrent eux-mêmes. Tout en faisant leur possible pour soulager la souffrance de leurs frères, ils se précipitent dans les bras de Jésus. C'est là qu'ils retrouvent la paix, cette paix qu'il est venu nous apporter. Non pas l'absence de combat, non pas la paix du monde, leur dit-il, mais la sienne. Celle qu'il répand par son esprit dans le fond de notre cœur et qui est une participation mystérieuse mais réelle à sa propre joie de ressusciter. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Et nous l'avons assez dit, l'une des grandes joies du chrétien est de savoir, de croire que son bien-aimé Seigneur est infiniment heureux pour toujours. Et qu'un jour il nous dira, entre dans la joie de ton maître, entre pour toujours dans la joie de ton Dieu. Si je t'ai créé, c'est pour que tu connaisses toi aussi ce bonheur. Mettons bien dans un coin de notre mémoire ce que disait Mère Teresa à la fin de sa vie à l'un de ses amis. Je prie pour que rien ne puisse jamais vous remplir de douleur au point de vous faire oublier la joie de Jésus ressuscité.